VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Soudan, pas de répit pour le gouvernement de transition. Le nouveau Premier ministre a 6 mois pour s'imposer face aux généraux, restructurer l'économie et faire la paix avec les groupes armés. Washington a décidé de suivre de très près la situation à Khartoum. Idrissa Sedoudia.
Les États-Unis vont surveiller de près l'engagement du gouvernement de transition du Soudan en faveur des droits de l'homme, de la démocratie et de la paix, avant de biffer ce pays de leur liste d'États parrainant le terrorisme. Ils se disent encouragés par les premiers contacts avec le nouveau Premier ministre de la Transition, l'économiste Abdallah Hamdok, qui a prêté serment dimanche, 4 mois après la chute de l'ex-président Omar el-Béchir. Mais les officiers américains sont préoccupés par l'homme fort soudanais, le général Mohamed Hamdan Dagalo, appelé Hemeddi, et son rôle dans les forces de soutien rapide.
Cameroun, le procès des 7 militaires camerounais accusés d'être impliqués dans l'exécution sommaire de 2 femmes et de leurs 2 enfants dans le nord du pays a été renvoyé aujourd'hui à la mi-septembre. Les 7 inculpés, dont un capitaine de l'armée, doivent comparaître notamment pour complicité d'assassinat et violation de consignes, selon le chargé de communication du ministère de la Défense. Leur procès devait initialement commencer fin août, mais il avait été déjà renvoyé à ce mardi. Hier, Amnesty International, l'organisation de défense des droits humains basée à Londres, a demandé aux autorités camerounaises de tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue. Et toujours au Cameroun, des milliers de résidents ont quitté ces derniers jours les régions anglophones, redoutant une escalade des violences après l'appel des séparatistes à des journées villes mortes. Le point avec John Lyndon.
James Noonan, du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, a affirmé qu'un nombre important de personnes ont fui les villes de Bamenda, Kumba et Boya. Selon lui, ce serait des milliers, mais difficile de donner un chiffre exact. À Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, de nombreux départs ont été observés depuis vendredi, d'après Roland Goran de l'ONG Plan International dans cette ville. De nombreuses personnes ont aussi quitté Boya, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, selon le responsable d'une ONG qui a requis l'anonymat. C'est bientôt la rentrée des classes et de nombreux parents envoient leurs enfants hors de ces régions pour qu'ils poursuivent leurs études. Depuis le début de la crise, plus de 4400 écoles ont fermé dans les régions anglophones. Mardi, un tribunal militaire de Yaoundé a condamné Julius Ayouk Tabé, leader séparatiste, à la prison à perpétuité. Cela a provoqué la colère de ses partisans qui ont appelé les habitants de ces régions à observer à partir d'hier lundi des journées villes mortes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique en République démocratique du Congo, multiples réactions à Kinshasa après l'annonce de la composition du premier gouvernement du président Félix Tshisekedi. Si dans l'opposition on est pessimiste sur les chances de réussite de cette équipe, les activistes des droits de l'homme, eux, se félicitent de l'exclusion du gouvernement des personnalités responsables de violations des droits fondamentaux. Quant à la population, elle attend de voir la nouvelle équipe à l'œuvre. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Avec 66 personnes, le nouveau gouvernement congolais est loin de faire l'unanimité, surtout à l'opposition qui ne compte aucun de ses membres dans l'équipe de Sylvestre Ilunga. Tout en saluant la présence des femmes dans cette équipe, Madame Eve Bazaïba, la secrétaire générale du Mouvement de Libération du Congo, partie membre de la coalition Lamuka, craint dans ce gouvernement l'influence négative du Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila.
D'avoir un gouvernement contesté par la majorité de la population, le peuple a voté pour la rupture. Maintenant, nous allons vivre une continuité, étant donné que c'est le FCC qui a la majorité et qui a présenté même un premier ministre, et le programme sera présenté par le premier ministre issu du FCC. Comment est-ce que la population va s'en sortir? En tant que femme politique, je voudrais saluer la présence des femmes. Je voudrais qu'elles travaillent en faisant la différence et la bonne gouvernance, parce qu'elles vont travailler dans un environnement très difficile.
Au niveau de la la société civile, l'Association congolaise pour l'accès à la justice recommande au premier gouvernement de Félix Tshisekedi de lutter contre la corruption et salue l'absence en son sein des personnalités sous sanctions internationales. Maître Georges Kapiamba.
Nous félicitons les hommes et les femmes qui sont nommés dans les gouvernements Ilunga Ilunkamba, mais nous attirons leur attention sur le fait qu'ils doivent travailler exclusivement pour la réalisation du bien commun, qui doit passer par la lutte efficace et publique contre la corruption, le détournement des deniers publics et l'enrichissement illicite. Nous nous félicitons aussi le fait que le président de la République et le premier ministre aient écarté toutes les figures qui sont impliquées dans des violations graves des droits de l'homme et qui sont sous les sanctions internationales.
La représentativité féminine était l'un des enjeux de ce gouvernement. Rose Mutombo est la présidente du cadre de concertation de la femme congolaise.
Pour nous, le minimum c'était 30%, on est arrivé à 17%, on doit continuer nos plaidoyers. Mais ce qui nous réjouit plus, c'est la parole que le président nous avait donnée la dernière fois. Il nous avait dit que je mettrai des femmes à des postes souvent occupés par les hommes. Aujourd'hui, on a les affaires étrangères, on a l'économie et on a le plan. Les femmes dirigent ces ministères-là. Là, c'est une avancée. Mais par rapport au pourcentage, la lutte continue.
Dans les rues de Kinshasa, on attend désormais que le nouveau gouvernement se mette au travail.
Nous félicitons de la patience. Nous attendons maintenant le travail, concrétisation surtout de la politique et du chef de l'État.
On a attendu depuis près de 7 mois. Pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir des gens qui vont répondre aux aspirations de la population congolaise. Ce ne sont pas des gens qui viennent juste pour s'enrichir.
Nous, on a beaucoup attendu le gouvernement. Là, nous sommes dans la joie. Nous attendons maintenant le gouvernement responsable faire le travail sur le terrain.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Défense des médias en Afrique, en Guinée, des dizaines de journalistes ont manifesté à Conakry lundi pour dénoncer ce qu'ils ont appelé le harcèlement des médias privés après l'inculpation pour diffamation et le placement sous contrôle judiciaire de deux journalistes. Le point avec Eki Abadou.
Non au harcèlement, non au bâillonnement de la presse, ont scandé les journalistes devant le siège de la Haute Autorité de la Communication à Conakry. Journalistes interpellés, journalistes emprisonnés, nous réclamons notre liberté, ont scandé les manifestants. Ils ont déposé un mémorandum au siège de la HAC pour exprimer leur colère face à la dégradation des libertés de la presse dans le pays. Souleymane Diallo, administrateur du groupe de presse Le Lynx, et Boubacar Diallo, journaliste de la radio du même groupe, ont été inculpés pour diffamation et placés sous contrôle judiciaire à Conakry. Ces poursuites font suite à une intervention sur la radio Lynx FM d'une auditrice accusant le ministre de la Défense, Mohamed Diané, d'avoir détourné de l'argent destiné à des casques bleus guinéens. La Guinée occupe la 107e place dans le classement 2019 de Reporters sans frontières sur 180 pays dans le monde.
Actualité américaine pour terminer, le président Donald Trump a laissé entrevoir à la fin du sommet du G7 en France lundi une possible percée dans la crise iranienne. Le chef de l'exécutif américain juge réaliste une rencontre prochaine avec le président de l'Iran, Hassan Rouhani, lequel a lui aussi défendu la carte diplomatique. Les précisions de Jean-Roger Bion.
À la question « Est-il réaliste que vous rencontrez M. Rouhani dans les prochaines semaines ?», Donald Trump a répondu par l'affirmative à l'issue du sommet du G7 à Biarritz en France. Donald Trump, qui avait dénoncé avec fracas l'accord sur le nucléaire iranien en 2018 et exerce depuis une pression maximale sur l'Iran, a néanmoins mis une condition à une telle rencontre que les circonstances soient réunies. Mais un vent nouveau semble souffler sur ce dossier très sensible qui empoisonne les relations internationales et a amené le Golfe au bord de l'embrasement cet été. Les discussions au sommet du G7 ont créé les conditions d'une rencontre et donc d'un accord, a estimé le président français Emmanuel Macron, qui avait mis ce dossier tout en haut de son agenda à Biarritz. Dès dimanche, Emmanuel Macron, qui mène une médiation active en vue d'une désescalade dans la région, avait signé un coup diplomatique en invitant le chef de la diplomatie iranienne Mohamed Javad Zarif à Biarritz. À Téhéran, le président Hassan Rouhani s'est lui aussi montré ouvert au dialogue, malgré les critiques de l'aile dure du régime sur la visite surprise de son ministre des Affaires étrangères en France.
Nouvelle réponse du président iranien ce mardi à la main tendue par Donald Trump. Hassan Rouhani a exhorté les États-Unis aujourd'hui à faire le premier pas en levant toutes les sanctions imposées à l'Iran sur le dossier nucléaire. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.